RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h07, c'est l'Intégral Tour jusqu'à 21h sur RMC. Avant vos questions sur le Tour de France, je vous rappelle les infos sport du jour. Richard Gasquet battu en demi-finale de Wimbledon. Une défaite en 3-7 face à Novak Djokovic, 7-6, 6-4, 6-4. Le numéro 1 mondial affrontera en finale Roger Federer. Le Suisse a battu Andy Murray en 3 manches, 7-5, 7-5, 6-4. Johan Cabaye a signé à Crystal Palace. Le milieu de terrain du PSG s'est engagé pour 3 ans avec le 10e de Première Ligue. Le transfert avoisinerait les 14 millions d'euros. Nicolas Karabatic, condamné à 10 000 euros d'amende pour escroquerie dans l'affaire des paris suspects, 15 000 euros pour son frère Lucas. Les deux handballeurs vont faire appel. Eux, ils sont là, ils sont fidèles au poste, fidèles au Tour de France. Luc Leblanc et Thierry Bourguignon sont là pour vous au 32-16. Et évidemment également sur Twitter avec le hashtag RMC Live. Bonsoir à tous les deux.
Rebonsoir.
Salut Virginie.
Bonsoir.
Eh bien alors, Mark Cavendish a enfin gagné.
Enfin, à force de le jouer tous les jours, tu y es arrivé.
Non, mais c'est marrant parce que au début du tour, il faisait quand même des grosses erreurs sur les sprints, enfin notamment la première fois là où il est parti très très en avance. Ouais. Et là, il a donné une vraie impression de puissance à Mark Cavendish.
Oui, à la Bourguignon. Il a fait l'intérieur, il a bien joué le coup quand même. Christophe, il s'est laissé enfermer, ça c'est, tu regardes bien sur le côté droit à l'intérieur, il s'est laissé un petit peu enfermer, il a réagi trop tard à l'accélération de Cavendish, et c'est vrai que Cavendish a bien joué le coup. Il est pas rentré dans le piège de Greipel sur l'étape d'hier. Où il est arrivé un petit peu tard et même il y a quelques jours d'ailleurs. Il a toujours réagi un petit peu tard et là il a dit oulala, c'est la dernière avant peut-être les champs, il faudrait peut-être que je me retrouve un petit peu et que je leur montre que je suis toujours là. Et puis franchement, c'est la graine d'un grand champion.
Parce que ça fait quand même 26 victoires en tout dans le Tour de France. Donc seul, même si c'est difficile de comparer, mais seul Bernard Hinault avec 28 et Eddy Merckx avec 34 ont fait mieux. Ça pose quand même un homme.
C'est clair que c'est le sprinteur. Hein. C'est vrai que ça fait 2 ans. Bon, l'année dernière, il n'a pas eu la chance. Il n'a pas eu de chance puisqu'il s'est fracturé la clavicule le premier jour. Ça a été terrible pour lui. En plus, devant la maison de sa maman. Donc, il voulait montrer qu'il était le meilleur en Angleterre. En plus. Il est passé à côté. Cette année, il revient. Et comme disait Cyril, j'ai l'impression que c'est pas un gros bosseur, qu'il arrive avec un peu en dilettante.
Et du coup, il s'entraîne sur les premières étapes, quoi.
Et voilà. Mais il loupe quand même quelques étapes au départ. Hein. Ou alors, il a pas ses points de repère de suite et il lui faut quelques jours pour se remettre dans l'ambiance et dans l'allure, surtout.
Les favoris, eux, ont eu une étape plus tranquille que jusqu'à présent dans ce Tour de France 2015.
Bah, ça les aide un petit peu à récupérer ces étapes-là, même si c'est une étape quand même et ça roule vite. Ça leur permet un petit peu de passer un cap et de passer peut-être les 5-6 premiers jours de ce Tour de France qui ont été quand même très très difficiles par les intempéries, le vent, le stress, les chutes. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'était l'occasion pour eux de pouvoir un petit peu décompresser.
Alors, les favoris de ce Tour de France, justement, c'est Patrick qui veut nous en parler au 32-16. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Virginie, bonsoir Luc, bonsoir Thierry.
Bonsoir Patrick.
Bonsoir Patrick.
Parce qu'il y a des jours de chaleur qui arrivent là.
Alors voilà, donc moi j'ai la question que je voudrais vous poser, c'est qui voyez-vous le mieux résister à la canicule? Imaginons qu'il fasse très chaud et qu'on approche de la montagne, donc c'est des grosses difficultés. Mm-hmm. Qui est le plus résistant à la canicule et à la chaleur pour vous?
Je pense qu'on va être du même avis avec Thierry.
Il y a 4 leaders qui sont quand même...
Quintana qui passera peut-être mieux les grosses chaleurs par rapport à la Colombie et tout ça.
Contador est pas mal aussi. Ouais. Ouais. Ce côté-là, je pense que les quatre sont
très
même, proches.
Quand même, Thierry, Froome peut-être un peu moins proche que Nibali, Contador et Quintana, je pense. Ouais, c'est une grosse chaleur avec l'altitude et tout ça. Je pense que Quintana est plus apte que les autres à passer un peu mieux les grandes étapes de montagne.
Sachant qu'il a l'habitude des montagnes, donc oui, c'est ça.
Ouais, voilà.
Il résistera mieux que les autres.
Hein, je pense qu'il résistera quand même un petit peu mieux. Je donnerais peut-être un petit peu plus l'avantage à Quintana quand même.
À Quintana. Voilà, d'accord. Voilà. Okay.
Merci beaucoup, Patrick, d'avoir appelé le 32-16.
Bravo à vous, hein. Belle émission, comme d'habitude.
C'est gentil.
On l'attend avec impatience chaque année et c'est extra.
Non, on le sait qu'on fait des belles émissions. Je vous remercie.
Ah, vous faites des émissions.
C'est grâce à Virginie.
C'est surtout l'humilité qui nous caractérise.
Et puis Virginie, elle est mignonne. Hein. Bravo, Virginie.
Ah oui.
Merci, Patrick, c'est très gentil. À très bientôt sur l'antenne de RMC.
Je vous envoie son numéro.
Voilà, on va faire comme ça. Bon, et
Virginie, je te passe le numéro.
Ben oui.
Il
n'y
a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Froome, on en parlait là, Froome, exactement, qui fait partie des favoris. Bon, il n'a pas voulu du maillot jaune ce matin. En revanche, ce soir, il l'a effectivement.
Oui, non, mais bon, c'est par décence sur une chute. Il n'était pas obligé de le porter. Bon, il a fait en sorte de jouer, de fair play.
Alors, continuons à parler de ceux qui peuvent remporter le Tour de France. Guillaume, bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous.
Merci nous appeler au 32-16. T'en as marre qu'on parle que des 4 fantastiques, c'est ça?
Alors, marre, oui et non. Alors d'abord, j'aimerais pouvoir passer un message, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, lundi, je vais partir tout seul avec ma toile de tente dans les Pyrénées. À chaque arrivée au sommet, sur les 3 sommets pyrénéens, je vais y aller tout seul, comme ça, à l'aventure, et pour aller rencontrer des personnes dans l'école, des passionnés de vélo. Et j'espère pouvoir rencontrer Luc sur place, ainsi que toute l'équipe RMC, que je suis maintenant depuis une bonne dizaine d'années.
Je monte sur l'arrivée tout le temps, donc vous allez certainement boire avec la voiture RMC.
Il suffit d'apporter quelque chose à manger et
voilà,
la loutre mobile s'arrête. Hein.
Je voulais pas le dire, tu l'as dit à ma place.
Bon, si tu as un barbecue au bord de la route, tu lui fais signe, il s'arrête. Hein.
Ok, bon, mais c'est noté. Bon, voilà, je tenais à vous parler. Alors oui, on parle des 4 fantastiques. D'ailleurs, j'avais mis Quintana comme le favori de ce tour. Sauf qu'il y a un autre Colombien dont on ne parle pas, c'est Rigoberto Urán, qui a un potentiel top 3 dans les grands tours, qu'il a déjà montré au Giro. Et ben, il avance caché, il est 7e au général, il n'est pas loin. Et à mon avis, si les 4 se regardent, il fait partie de l'un des meilleurs grimpeurs du tour. Il a joué placé notamment à Tirreno cette année. Il peut tirer profit de cette bataille et à mon avis, je le vois minimum dans le top 5. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, non, mais c'est ça fait partie des
personne
des
n'en parle
qui peuvent gagner le tour. Oui, mais c'est encore mieux pour lui. Hein. Il y a moins de pression. Il y a pour l'instant son équipe avance masquée, on va dire, hein, puisque ils ont gagné les étapes, ils ont malheureusement perdu un homme, mais. Tant mieux pour lui, on parle pas de lui.
Il est sixième pour l'instant, à 34 secondes de Froome.
Ouais, 34 secondes.
Sixième avec le déclassement, ouais.
On parle toujours des 4 fantastiques.
Il est vraiment tranquille, non, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'autres, qui sont dans l'ombre, dans les 10-15 premiers là du classement général. On en voit quand même certains qui peuvent faire trembler les 4 fantastiques.
Et puis cette équipe Quickstep, ça fait 2 jours qu'on en parle quand même énormément dans tous les sens, hein, aussi bien en bien que malheureusement pour l'abandon de Tony Martin.
Oui, en plus quand ils gagnent, malheureusement ils perdent le maillot, mais ils gagnent une étape.
Deux étapes de suite,
ils regagnent une derrière.
C'est vrai. Ils ont rempli leur contrat en tout cas.
Et c'est 3 étapes plus un jour maillot, c'est pas mal. Déjà le contrat est rentré.
Et rempli.
Merci beaucoup Guillaume d'avoir appelé le 32-16.
Rendez-vous dans les Pyrénées Guillaume.
Voilà.
À bientôt.
N'oubliez pas les victoires. Bon c'est courage. Ici le barbecue.
D'accord.
Ça marchera très bien. Merci beaucoup Guillaume. Et c'est un autre Guillaume qui nous attend au 32-16. Bonsoir Guillaume. Donc.
Oui. C'est la Saint-Guillaume ou quoi?
Oui, c'est la Saint-Guillaume.
Bonsoir Guillaume.
Guillaume.
Tu vas dans les Pyrénées aussi?
Non, mais...
Dans les Alpes. Un casse-croûte aussi alors.
Non, sur les champs Luc.
Ah, sur les champs, d'accord.
Et pour parler cette fois-ci de Thibaut Pinot.
Oui, Thibaut Pinot. Bah, j'ai appelé en début de tour, c'était avec le druide. J'étais pas tout à fait totalement d'accord sur le fait que Thibaut Pinot était un potentiel vainqueur du tour. Je pense qu'on s'était un peu emballé. Hier, l'année dernière, pour moi, c'était un accident. Les deux meilleurs sont tombés. Il a su en profiter. Maintenant, vu l'équipe qui est assez légère autour de lui... je pense que c'était pas un mal pour un bien qu'il soit si loin. Ça peut le libérer en effet pour aller chercher une belle étape parce que je pense que demain il va pas arriver à suivre. Dimanche ils vont prendre au moins une minute sur le chrono par équipe. Donc je pense qu'il va arriver à partir du 14 juillet. Il y aura plus de 7 minutes. Bon, maintenant je pense pas que même s'il a 7 minutes, on le laisse partir. dans une grande échappée parce que bon, mine de rien, il a quand même un super potentiel. Il n'a pas fini troisième du tour pour rien. Donc voilà, c'est. Je pense qu'il lui faudrait plus d'un quart d'heure pour qu'on puisse le laisser partir et aller faire un show et gagner une étape de montagne.
Oh, mais il est capable de toute façon de gagner une étape de montagne. Mais bon, dimanche soir, je pense qu'ils vont faire le bilan un petit peu de la première semaine qui est quand même relativement mitigée pour Thibaut. Après, c'est vrai que les objectifs ne seront certainement pas les mêmes à partir des Pyrénées. Moi, je serai le directeur sportif de l'équipe la FDJ. Je lui dis, écoute Thibaut, maintenant, t'as rien à perdre, tu prends des risques. Tu prends des risques, tu as les quatre fantastiques qui vont se regarder un petit peu, ils vont pas pouvoir courir après tout le monde. Et à un moment donné, ben, il faut choisir ton étape, un objectif, une étape, partir peut-être de loin, faire un show, et pourquoi pas, s'ils se trouvent dans un très très bon jour, profiter du moment où les quatre se regardent un petit peu pour la prise de maillot jaune. Et c'est vrai qu'il va y avoir un stress quand même dès le départ de la deuxième semaine. C'est quand même le début des Pyrénées, et les quatre vont avoir un stress quand même un petit peu entre eux, puisque voilà, ils partent pas dans l'inconnu, parce qu'ils connaissent leurs conditions, mais des coureurs comme Thibaut Pinot peuvent éventuellement exploiter, je dirais, le fait que les quatre se regardent.
Mais c'est ça, à force de se surveiller les uns les autres, là, parmi les quatre dont on dit qu'ils sont les favoris du Tour de France, est-ce qu'il n'y a pas un coup à jouer pour ceux qui sont à côté et qu'on surveille moins?
Ils ne vont pas se regarder en chien de faïence pendant que les autres vont en profiter. Hein. Il y a des coups à faire, certes. Lucho, tu as raison en disant que Pinot, il n'a plus rien à perdre et qu'il faut qu'il prenne des risques. Et c'est ceux qui prendront des risques qui, sur ce tour, se replaceront comme il faut.
Oui, il a les moyens de se replacer.
Mais tu vois, je suis pas comme toi. Je pense que, je l'espère peut-être plus que ce que je pense, mais j'espère que les quatre fantastiques et les outsiders, on va dire, ne vont pas se regarder, mais vont prendre des risques mutuellement et
avoir une belle course. J'espère qu'il y a une prise de risque quand même pour tout le monde, qu'il y ait une belle course, quoi. Ça se regarde pas jusqu'à deux bandes de l'arrivée, que ça attaque à deux bandes de l'arrivée.
Non, mais on se regarde, Lucho. Tu sais, on se regarde quand on est deux.
Là, ils sont quatre quand même.
Ils sont quatre, voire plus. Plus. Tu vois,
ouais.
Hein, ils sont une 7-8 qui peuvent encore gratter au moins jouer le podium.
On va tirer les enseignements.
Donc, ça va être super.
Après la première semaine.
Dès la première étape des Pyrénées, on va tirer les conclusions. Hein, on va savoir tout de suite qui est capable de gagner le tour. Hein.
Alors il y a aussi un contre-la-montre par équipe. Et sur Twitter, avec le hashtag RMC Live, il y a Rico qui nous dit que la FDJ, c'est pas une équipe binôme en chrono, que cette année, ils ont été nickel par équipe. Donc
il leur manque William Bonnet, quoi. Il leur manque un gros rouleur, quoi. Donc c'est vrai qu'ils ont un handicap par rapport aux grosses équipes de leaders. Ça c'est indéniable. Là ils vont pas être complets. C'est vrai que c'est le petit problème, c'est que le compte la montre par équipe et se commence après pratiquement une semaine de tour. Donc il y a des équipes qui sont déjà diminuées au niveau des coureurs qui ne seront pas neufs. Donc là, comme la Française des Jeux. Donc moi, j'ai un petit peu peur pour la Française des Jeux qui se prenne un petit tir dimanche, quoi.
Ouais, mais c'est ce qui est dommage même, tu vois, Lucho, c'est que Uran aurait pu profiter de Martine. Et puis pourquoi pas gagner ce chrono et même prendre le maillot jaune
aussi,
parce qu'il n'est qu'à 34 secondes.
Ouais.
Et c'est vrai que sur un chrono de 28 km, c'est bon, mais Froome et la Sky sur le Dauphiné n'ont pas fait d'étincelles.
Ouais.
Donc vont-ils être impériaux?
La Sky, ils vont être pas mal quand même. La Sky, je pense que le maillot jaune de Froome et tout ça.
À l'image du leader. C'est toujours à l'image du leader.
C'est sûr.
Le leader marche. Oui, voilà, exactement.
Il est 20h20 sur RMC. Dans une dizaine de minutes, on parlera football. Pour l'instant, on parle du Tour de France et notamment.
C'est mon ressort, le football.
Non, tu peux parler football aussi, il n'y a pas de problème.
Mais à part Saint-Etienne, que je supporte depuis les années 70, tu vois, voilà quoi.
Oui, non, mais pour l'instant, on va plutôt rester sur le Tour de France, si ça ne gêne pas, Lucho. Quelqu'un qui nous appelle pour parler de Thibaut Pinot, c'est Sébastien. Bonsoir Sébastien.
Oui, bonsoir à toute l'équipe déjà, et félicitations pour toutes vos émissions.
Merci beaucoup.
Bonsoir Sébastien.
Bonsoir, un voisin de Lucho, pas très loin, dans le Périgord.
Ah d'accord, très bien.
Voilà Lucho. Bon, juste une question à propos de Thibaut, aussi bien de Thibaut que de Romain. Je les vois bien dans quelques années, je pense, arriver dans le top 3 pour gagner le Tour. Mais vraiment, moi, ce qui me fait peur, c'est nos équipes, quoi, que ce soit J2R ou la FDJ, quand on a vu dans les... dans l'étape d'avant-hier, Quintana était 2 minutes derrière, qu'il y avait que les Movistar qui arrivaient à rouler et qu'on voyait pas nager 2 heures avec eux et tout. Moi, je pense qu'on peut avoir un Français qui gagne, mais pas dans une équipe française. Voilà. C'est mon avis.
Ça, c'est une question qui revient souvent. Hein. On en parle beaucoup des Français dans les équipes étrangères, notamment en parlant de Tony Galopin.
On voit bien qu'on est en retrait quand même. Dès qu'on a un coureur détaché, une protection d'un coureur, on voit que nos équipes sont faiblardes. Hein. C'est timide. Ou alors, est-ce que c'est des compétences? On n'a pas des gros rouleurs ou... Je sais pas, mais bon, on est timide. À l'écran, on voit bien que sur des échappées, protéger nos coureurs, tout, on les sent esseler. Donne pas une bonne impression. Enfin bon, c'est mon avis, je voulais avoir le vôtre.
Non, mais rappelez-vous, l'an dernier, les deux équipes que vous avez citées, la française et AG2R, la mondiale, avaient leur leader bien placé. Eh ben, l'équipe était autour de ses leaders et fonctionnait correctement. Ils les aidaient au maximum, ils les ont protégés, remontés. Bon, ben là, ils ont fait preuve de malchance les uns les autres. Et puis, certes, je vous rejoins sur un problème, c'est que au moment des bordures, les Français, c'est pas notre tasse de thé et on est souvent mal placé et on n'arrive pas à frotter comme des malades, comme les Hollandais, c'est clair.
L'étape où Quintana est vraiment en retrait, là, qui prennent une minute, oui. C'est dans l'étape de... juste avant les pavés, là, c'est ça, là, l'étape de...
Oui. Je sais plus, quand c'est la deuxième, semaine, là, la deuxième étape.
Ouais, Cambrai, voilà. Mais moi, j'ai espoir de voir, il y a quand même Bardet derrière... Au moins voir les AG2R relayer les Movistar pour essayer de combler. Mais non, on est acteur.
Écoutez.
Ah, ça, c'est un coup de.
On
des
a perdu
françaises.
Sébastien. Mais
c'est
voilà,
les équipes françaises qui ont fait un attentat.
Ah, mais une bordure, je crois, là, visiblement.
Ça, c'est le père Madiot, là. Je reconnais. C'est Marco, ça. Il a coupé le fil.
Aujourd'hui, donc, on a eu droit à une étape un petit peu plus calme. Est-ce que c'était indispensable après ce qui venait de se passer pendant les 6 premiers jours de ce Tour de France 2015? Est-ce qu'il fallait absolument là souffler un peu?
Un petit peu quand même, hein. C'est vrai que quand tu vois ce qui s'est passé depuis le début, depuis le départ en Hollande, les bordures, le vent, les chutes, les pavés, ça fait beaucoup en peu de temps pour les coureurs. Donc je pense que aussi bien les équipiers que les leaders, les équipes, tout le monde avait besoin un petit peu de souffler aujourd'hui. Bon, malgré tout, ça a quand même roulé vite, hein. Ça roule toujours vite, mais
il n'y
a pas eu de vent, il faisait beau, et ça leur a permis un petit peu de souffler un petit coup avant, le reste du tour, parce que là, à partir de dimanche, ça va être sérieux, même demain, avec Mur de Bretagne, mais c'est surtout à partir de dimanche, et puis hop, les Pyrénées de suite.
Alors déjà, Mur de Bretagne, là, demain, c'est une arrivée quand même un peu compliquée.
C'est un effort court, intensif.
Remettre ça dans le contexte.
Un effort court, intensif.
Oui, voilà.
C'est
un long sprint difficile.
Tu arrives, on n'arrive pas comme les années passées, Thierry. On n'arrive pas, c'est la descente, paf, et tu prends le mur de suite. Là, tu arrives par un autre endroit, tu tournes à droite et tu es carrément dans le mur. C'est-à-dire que tu prends le mur carrément à l'arrêt. Et c'est différent des années précédentes par rapport à ce qu'on a vu sur le roadbook.
Est-ce que cette première semaine qui a été très agitée, qui a été difficile pour les coureurs avec de nombreuses chutes, avec du vent, avec beaucoup de choses qui se sont passées, est-ce que ça peut compter au moment où les coureurs vont arriver en montagne, c'est-à-dire là où le tour se gagne ou se perd?
Bah, de toute façon, il y a beaucoup de coureurs qu'on voit avec des pansements qui ont des plaies, qui récupèrent un tout petit peu moins bien. Et bon, là, s'il fait beau, jusqu'à lundi, ils auront le beau temps, voire plus. Donc, si le beau temps est de la partie, c'est déjà pas trop mal. Et ils pourront déjà sécher leurs plaies. Et puis après...
Tu sais, quand il fait beau, automatiquement, les blessures se soignent un petit peu plus rapidement. Quand tu fais une étape comme celle de Cambrai, bon, ça va, c'était sec, il n'a pas fait mauvais. Mais les étapes de pluie, c'est vrai que c'est toujours plus difficile à soigner.
Il y a le stress. En
voilà, il y a le stress et tout. Et puis, bon, mais c'est vrai qu'une étape comme celle d'aujourd'hui, c'était l'occasion pour soigner tout ça tranquillement.
Mais en tout cas, pas le temps de soigner tout ça pour vous, hein, parce que dès demain matin, vous êtes sur le pont pour les grandes gueules du sport. Hein, ça ne s'arrête jamais sur RMC.
Je vais au Tio Paquito ce soir.
Moi, et Lucho, tu sors pas ce soir.
Ah, non, bon, nous, on va pas au Paquito, c'est comme ça. C'est Paquito et
moi, j'ai une masseuse à domicile.
Je vais danser la samba ce soir.
Alors, attendez, nous allons en parler hors antenne. Je pense que ce sera pas plus mal.
Est-ce qu'on pourrait avoir des images de la samba?
On y compte bien. Mais on va demander à Georges Quirino de prendre des photos. Allez, on va faire comme Allez,
Georges,
merci beaucoup à tous les deux.
Il nous entend.
Je vais lui envoyer un petit message.
Je fais une bise vite fait à mon copain, là, Yann Lavoie. Il nous écoute.
Eh bien, une bise à Yann Lavoie. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, demain, les grandes gueules du sport. Et puis ensuite, dès 14h pour l'étape du jour, la 8e étape entre Rennes et Mur de Bretagne. De la Bretagne à la Grande-Bretagne, on va parler des clubs de foot anglais qui viennent allègrement se servir parmi les joueurs de Ligue 1. On en parlera avec l'économiste Pascal Perry. À tout de suite.
RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
20h32 sur RMC, l'intégral tour c'est jusqu'à 21h. À 21h ce sera l'after avec Florent Gautreau avec un débat autour de Saint-Étienne et des ambitions de Saint-Étienne en cette saison qui arrive. Vous le savez, du foot, on en parle dès 20h30, dès maintenant. Les clubs anglais viennent allègrement se servir en Ligue 1 à coup de millions d'euros. L'économiste Pascal Perry, notre économiste, est en direct avec nous. Bonsoir Pascal.
Oui, bonsoir Virginie.
Mohamed Bouafsi est avec moi en studio. Salut Mohamed.
Salut Virginie, bonsoir Pascal.
Alors Mohamed, Johan Cabaye vient de signer à Crystal Palace, hein, le milieu de terrain du PSG, quitte donc la capitale de la France pour celle de l'Angleterre.
Oui, hier on en parlait sur RMC, le Paris Saint-Germain et Crystal Palace avaient trouvé un accord avoisinant 15 millions d'euros pour le milieu de terrain. Et ce matin, il s'est engagé pour 3 ans avec le club anglais. Alors, on va rappeler qu'à Londres, à Crystal Palace, Johan Cabaye va retrouver Alan Pardew qu'il avait connu du côté de Newcastle. Et si pour certains ce choix peut paraître étrange, eh bien Cabaye sera titulaire indiscutable à Londres alors qu'il n'était qu'un simple remplaçant au PSG. Et tu le sais Virginie, il veut absolument disputer l'Euro 2016, c'est pour ça qu'il a choisi ce club pour redevenir titulaire. Et preuve de confiance de ses futurs dirigeants, Johan Cabaye est devenu le plus haut transfert de l'histoire de Crystal Palace à hauteur de 15 millions d'euros.
Alors moi je vois surtout Johan Cabaye comme un symbole, Pascal Perry, je ne sais pas ce que tu en penses, mais 14 millions qui est capable de dépenser un club qui a fini en milieu de tableau en Première Ligue, c'est quand même beaucoup, c'est peut-être le plus gros transfert comme le disait Mohamed, mais on a l'impression que maintenant ça va devenir quelque chose d'assez commun de voir des clubs du standing de Crystal Palace dépenser autant et donc venir se servir en France parce que c'est très facile pour eux de proposer des sommes aussi importantes.
Oui, il y a non seulement le cas de Cabaye à Crystal Palace, qui est un bon club, hein, c'est un club historique de Londres, mais il y a pire que ça, si je puis dire. Un club comme Watford, par exemple, qui joue en Championship, la deuxième division anglaise, a déboursé plus de 10 millions d'euros pour acheter un joueur italien qui, de mémoire, jouait au Genoa. Alors pourquoi ? Parce qu'on a un football anglais qui est extrêmement riche. D'abord, il a des droits télévisés très très abondants, des droits audiovisuels très élevés. Le dernier du dernier championnat de Première Ligue, Queen's Park Rangers, a reçu plus de 90 millions d'euros en droits audiovisuels la saison dernière. C'est-à-dire deux fois plus que le Paris Saint-Germain. Alors, il y a non seulement les droits audiovisuels qui sont importants et qui d'ailleurs vont augmenter pour la prochaine campagne de 2016 à 2019, puisque les clubs anglais de Première Ligue se partageront plus de 2 milliards, j'ai bien dit, je parle de milliards, hein, de 2 milliards d'euros par saison. Mais il y a aussi d'autres revenus qui sont les revenus de la billetterie, ce qu'on appelle le match day. Je regardais tout à l'heure avant de vous retrouver l'un et l'autre les dernières statistiques. Le dernier championnat de deuxième division, le Championship, les 8 premiers clubs ont une affluence moyenne supérieure, les 8 premiers clubs de ce championnat ont une affluence moyenne supérieure à 20 000 spectateurs par match. C'est beaucoup plus que certains clubs de la Ligue 1. Donc, ça constitue évidemment un matelas financier, enfin ça constitue des éléments de confort financier qui permettent aux clubs anglais de première et de deuxième division d'être les plus riches d'Europe aujourd'hui et d'aller faire leur marché dans les clubs français, mais aussi dans les clubs italiens et dans certains cas dans les clubs espagnols.
Alors donc, tu l'as dit Pascal, ça va encore exploser encore plus à partir de la saison prochaine. Donc finalement, ce retard qu'ont les clubs français, c'est impossible à combler.
Sur le plan comptable, oui, y compris pour le Paris Saint-Germain. Alors quand on regarde les droits télé en France, hein, c'est de l'ordre de 600 millions d'euros par an. Alors on considère que c'est déjà des sommes élevées. Mais évidemment, quand on compare avec les plus riches, c'est trois fois moins qu'en Angleterre, et ce sera le cas en particulier pour la campagne 2016-2019. Oui, les clubs français sont incapables de rivaliser, d'autant que les clubs français ont un deuxième handicap. Non seulement les droits audiovisuels sont relativement modestes, hein, si on les compare avec ceux de nos voisins anglais, mais les clubs français, à l'exception du Paris Saint-Germain, ont des revenus de billetterie et des revenus marketing qui sont eux aussi relativement modestes. Et ils n'ont toujours pas trouvé la solution qui permettrait de faire venir du monde au stade. Alors on construit de nouveaux stades, on embellit ceux qui existaient déjà, on a construit un stade à Bordeaux, un autre à Lyon, un à Nice. Bon, ce sont des conditions nécessaires mais pas suffisantes. On voit qu'à Nice, il y a en général 15 000 spectateurs dans un stade qui a une capacité de 35 000. Donc, il faut.
Oui, mais
absolument...
parce que c'est ça, c'est pas parce qu'on construit des beaux stades qu'on va
non,
les remplir.
Quoi.
Enfin, après,
non,
les gens veulent quand même voir une équipe qui joue
c'est
au
ça.
Foot.
Voilà, il faut absolument améliorer le spectacle. Et donc, il y a une série de handicaps, les droits audiovisuels qu'on évoquait, les revenus de la billetterie, les revenus marketing. Et puis, pardon d'y revenir, hein, c'est pas mon dada, mais c'est une réalité. Il y a aussi un environnement fiscal et social qui est pas très favorable en France. C'est-à-dire qu'en Angleterre, Johan Cabaye, il a négocié un salaire net-net. C'est-à-dire que c'est le club qui paye ses impôts et donc lui exige un revenu net. Alors c'est possible dans un environnement social et fiscal qui est maîtrisé, dans lequel l'appétit de l'État est limité, si vous voulez. En France, on sait par exemple que quand on donne un petit peu plus d'1 million d'euros par mois à Ibrahimovic, finalement à la fin de la saison, quand on ajoute la fiscalité, quand on ajoute... les cotisations sociales et la taxe à 75%, ça aboutit à une enveloppe qui est considérable. C'est un joueur qui a coûté plus de 40 millions d'euros. Donc, il n'y a pas de club français, hors le Paris Saint-Germain, qui soit capable de lutter avec les clubs anglais. Et le championnat anglais, c'est un produit en soi. Oui. Non seulement les clubs sont riches, mais en plus, c'est un ensemble qui est cohérent.
Non, mais Pascal, en fait, le truc, c'est aussi que les joueurs, je comprends très bien ce calcul, mais vont pour certains dans des clubs anglais qui ne jouent absolument pas la Coupe d'Europe. Et donc, ils se contentent de calculer ce qu'il va y avoir sur leur feuille de salaire. Et le sportif ne les intéresse plus.
Alors, le sportif doit moins
les intéresser.
Je ne parle
pas pour Johan Cabaye, parce que là, le cas est un peu particulier. C'est ce que disait Mohamed. Il y va aussi pour être titulaire dans un club, alors qu'il n'était pas au Paris Saint-Germain et qu'il veut jouer l'Euro 2016. Hein. Mais certains
oui.
vont dans des clubs où, oui, sportivement, c'est quand même moyennement intéressant.
Oui. Mais j'insistais, Virginie, sur le fait que la Première Ligue comme le Championship sont des produits d'ensemble. Et tu sais que je vais souvent en Angleterre voir des matchs de football, y compris en 3e division. En 3e division, il y a 10 000 personnes au stade et les professionnels que je rencontre, qui sont pas multimillionnaires, certains Français notamment, me disent ici, on a vraiment l'impression de vivre dans un univers professionnel. Tout est fait pour qu'on joue au football, et c'est vrai que jouer la Première Ligue ou jouer le Championship, c'est extrêmement excitant, même si on ne joue pas la Coupe d'Europe, ça reste un challenge sportif qui manifestement, en tout cas, est très séduisant pour ces footballeurs-là.
Il y a aussi un phénomène sportif inquiétant, au-delà de l'aspect économique, c'est qu'il y a quelques années, Virginie, des grands joueurs français internationaux rejoignaient l'Angleterre, mais allaient directement à Arsenal, à Manchester United, à Chelsea, dans les très gros clubs. Aujourd'hui, nos joueurs internationaux d'équipe de France, eh bien, ils vont même dans des clubs moyens. Et ça, Pascal l'expliquait, c'est aussi dû en raison aux chiffres proposés par les clubs anglais. Mais c'est très inquiétant pour notre football, parce que si on évoque aujourd'hui Johan Cabaye, certes, il a envie d'être titulaire, mais il y a quelques jours, on prenait l'exemple de Dimitri Payet qui va rejoindre Aston Villa alors qu'il était titulaire West Ham, alors qu'il était titulaire indiscutable à l'OM et qu'il était meilleur passeur. Il était l'un des meilleurs passeurs européens. Pourquoi ? Parce que déjà, on va lui proposer 10 000 euros par match. Il va, chaque match disputé, il va toucher 10 000 euros. Il va toucher 2,5 millions net aussi en Angleterre. C'est ça, c'est un phénomène aussi inquiétant, c'est que nos meilleurs joueurs ne vont plus directement dans les meilleurs clubs anglais, mais aussi dans les clubs moyens.
Pascal Berry, est-ce que...
Virginie, l'hémorragie ne fait que commencer. Situez-vous dans la perspective 2016-2019, chaque année, la Première Ligue pourra compter sur une enveloppe de 3 milliards d'euros. J'ajoute aux droits télé qui ont été vendus à Sky et à British Telecom, à BT, j'ajoute les droits internationaux. C'est-à-dire, le championnat anglais est un championnat qui est regardé partout dans le monde. En Chine, en Inde, les droits internationaux...
À part en Corée du Nord et en Albanie, c'est les deux seuls pays du monde qui ne regardent pas la Première Ligue.
C'est ça, et peut-être en Grèce bientôt, je ne sais pas, mais en tout cas... c'est un championnat qui est extrêmement populaire, qui est extrêmement riche. Et moi, j'ai été un de ceux qui, au moment où ces droits ont été négociés, a mis en garde contre l'hémorragie qui ne manquerait pas de se produire. Je pense que demain, y compris la deuxième division anglaise, sera plus attrayante que la première division française. Il aura mieux aller jouer à Bournemouth. Ou à Sheffield United en deuxième division anglaise, d'abord parce qu'il y a des droits de retransmission, c'est un championnat qui est extrêmement populaire, qui se joue devant 20 à 30 000 personnes, et aussi parce que ces clubs-là auront des moyens supérieurs aux nôtres.
Et encore plus inquiétant, pour rejoindre Pascal, c'est que nos jeunes joueurs vont désormais de plus en plus jeunes en Angleterre. Ça a été le cas de deux petits jeunes de Lens qui ont rejoint Arsenal à 16 et 17 ans. Aujourd'hui, David Fofana, un jeune du Racing Club de Lens, un espoir du football français, a rejoint Manchester City alors qu'il n'a que 18 ans. Des jeunes aujourd'hui rejoignent l'Angleterre à 16, 17 ans, et on courtise des jeunes français qui ont 13 ans aujourd'hui en France du côté de certains clubs anglais.
Juste une dernière question, Pascal Perry. Depuis deux jours, il y a une sorte de polémique sur la gouvernance du football français, avec une sorte de scission qui se fait entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Est-ce que ce que réclament les clubs puissants de Ligue 1, à savoir que chacun finalement reste entre soi, quoi, la Ligue 1 avec la Ligue 1, la Ligue 2 avec la Ligue 2, est-ce que ça pourrait être une solution pour professionnaliser encore plus le football français et faire en sorte qu'on puisse peut-être à terme pouvoir rivaliser avec l'Angleterre?
Oui, je le crois, c'est le modèle anglais d'ailleurs, la Première Ligue a été constituée, c'est une société de droit privé, elle ne gère que les clubs de Première Ligue, le Championship, la deuxième division, négocie ses propres droits télé, c'est une autre société. Moi je suis un chaud partisan de la séparation de l'élite, pour être très clair et très direct, ça n'est peut-être pas politiquement correct, mais je crois que c'est pas au club de deuxième division de française de Ligue 2 de dicter leur loi à l'élite. Nous avons besoin non seulement du Paris Saint-Germain, mais aussi d'une série de clubs très compétitifs si on veut un championnat qui produise des potentiels vainqueurs de la C1. Et moi je pense que les dirigeants de Ligue 2 devraient plutôt s'occuper de ramener du monde dans les stades. L'un d'entre eux, le dirigeant de Clermont Foot, a été très bavard au cours des derniers jours, mais je regardais ses statistiques, il y a 2700 personnes au stade Gabriel Montpied pour venir voir jouer le Clermont Football Club. Je pense que la priorité de ces clubs-là, ce serait plutôt de remonter le niveau, de séduire le public, et l'intérêt de la Ligue 1, c'est évidemment d'affronter la compétition internationale et de l'affronter seul, c'est-à-dire sans semelle de plomb, sans avoir à redistribuer des droits élevés à la deuxième division française, la Ligue 2, qui est une des plus riches d'Europe.
Merci beaucoup Pascal Perry, à très bientôt sur l'antenne des RMC, dans le Grande Gueule et ailleurs.
Merci
beaucoup Mohamed, tu restes avec moi en studio. Dans un instant, on va parler du Gazélec Ajaccio qui a beaucoup moins d'argent, c'est sûr, que les clubs de Première Ligue en ce moment. On sera en direct avec l'entraîneur du promu en Ligue 1, à tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h49, dans 10 minutes maintenant, ce sera l'after avec Florent Gautreau. Mais pour l'instant, nous allons nous intéresser à un promu, le Gazélec Ajaccio. Son entraîneur Thierry Loret est notre invité. Bonsoir Thierry Loret.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez de jouer et de gagner un match de préparation pour cette saison de Ligue 1 qui s'annonce.
Non, on a fait match nul. Je suis désolé de vous décevoir. On a joué contre Bastia ce soir. Et on a égalisé sur pénalty à la dernière minute.
Voilà. Ouais, bah, quand on égalise à la dernière minute, c'est quasiment une victoire. Voilà, c'est bien ce que je disais.
Je vais dans votre sens. Moralement, ça fait du bien.
Bon, comment ça se passe cette pré-saison de Ligue 1, la première que vit le club de Gazélec?
Bah, plutôt bien. Nous, on fait les choses normalement, comme lors de notre saison nationale, puis notre montée, la saison de Ligue 2, pareil. La seule chose, c'est que voilà, quand on fait des matchs amicaux en pré-saison en Ligue 1, on vous appelle, les radios vous appellent à la fin du match, alors qu'en Ligue 2 et en National, il n'y a personne qui vous appelle, voilà, tout simplement.
C'est la seule différence, vraiment, vous préparez pareil.
Oui, bien sûr, alors, on a des joueurs différents, on a renforcé le staff cette saison parce qu'on sait qu'on en aura besoin, voilà, on avait des progrès à faire à ce niveau-là. On a beaucoup de choses à améliorer en termes d'infrastructure, en termes d'encadrement. Et donc on a fait l'effort cette saison de travailler là-dessus. Mais après, sincèrement, on est dans le même état d'esprit que les années précédentes. La seule chose, encore une fois, c'est qu'on a un recrutement qui est un peu plus délicat à faire que les années précédentes. À cette période de l'année, les deux années précédentes, on avait notre effectif quasiment complet. Et là, c'est pas tout à fait le cas. Voilà. Donc c'est des petites choses qui va falloir travailler sur dans les jours qui viennent, voire je n'espère pas trop longtemps. Dans les semaines qui viennent.
Ça va pas être Messi qui va arriver du côté du Gazélec hein, dans ces derniers jours, ces prochains jours.
Non, on l'a contacté, mais il voulait se reposer après la Copa América et il a préféré prendre des vacances.
Non, plus sérieusement, Thierry, il y a eu trois arrivées du côté du Gaz, Le Moigne, de Lens, Silla. Est-ce que vous êtes comblé ou est-ce que vous attendez encore d'autres joueurs, sachant que vous avez eu aussi trois départs, Rivéran, Fabre et André?
Enfin, on a eu un peu plus de départ, honnêtement, parce que Julien François, Alien Madi, enfin des garçons qui complétaient l'effectif, peut-être pour vous, mais pour nous, c'était des joueurs importants. On a gardé 13 joueurs. Donc là, il y en a 4, enfin 3 qui ont signé, plus un quatrième qui est chez nous, qui a juste des papiers administratifs à régler pour se libérer. Et donc, on attend encore forcément, on va dire 5 ou 6 joueurs dans les jours qui viennent. Voilà. Donc, il y a beaucoup de travail à effectuer par rapport à ça. Il faut on s'y attelle depuis longtemps, mais bon, c'est un peu difficile pour nous parce que avec le budget qu'on a, forcément.
Votre budget, salaires... c'est moins de 5 millions d'euros, hein, c'est ça, je me trompe pas? Votre budget est de moins de 5 millions d'euros?
Non, pas tout à fait. Non, c'est 13 millions 5, je crois. Mais c'est largement inférieur au 19e de Ligue 1, voilà, forcément.
Vous êtes le plus petit budget de l'histoire de la Ligue 1.
Oui, enfin de l'histoire récente, parce que je pense si on remonte à assez loin, je pense qu'on trouvera forcément des budgets à ce niveau-là. Mais bon, voilà, c'est vrai que sur les 10-12 dernières années, je pense pas qu'il y ait un club qui ait un budget à ce niveau-là, quoi. Alors on aimerait bien avoir 25 millions de budget, mais pour l'instant c'est un peu plus compliqué que ça. Donc voilà, on fait avec, on a toujours fait comme ça. On avait, je crois, le 13e budget sur 18 en national, et l'an dernier on avait le plus petit budget de Ligue 2, ça nous a pas empêché de nous retrouver ici. Donc on a beaucoup d'espoir ici en Corse, donc on se focalise pas trop là-dessus.
Et Thierry, comment on fait pour convaincre certains joueurs de rejoindre le projet du Gaz quand on sait que on n'a pas beaucoup d'argent et que l'année prochaine on va jouer le maintien? On mise tout sur la Corse ou sur d'autres choses?
Non, la Corse, bien sûr, c'est un argument qui est recevable, j'en conviens, parce que ça fait 2 ans et demi que je suis là et je m'y plais. Mais non, mais bien entendu, il est clair que si on veut gagner de l'argent dans le football, il faut pas signer au Gazélec. Il y a d'autres clubs pour ça. Mais nous, on offre du temps de jeu, on offre une qualité de vie, on offre un autre style de management. Voilà, les gens sont très très cool chez nous. On met le joueur à la hauteur de l'homme, et c'est très important pour nous d'avoir des gens qui s'identifient à ce qu'on fait, pour avoir une adaptabilité de tous les instants, parce que voilà, on est dans des conditions qui sont un peu difficiles, un peu délicates par moment. Donc il faut savoir prendre sur soi. On n'a pas de centre technique high-tech, on n'a pas tous les moyens de récupération possibles, voilà, on n'a pas un stade flambant neuf de 60 000. Voilà, donc à partir de là, on fait avec nos moyens, mais pour l'instant, je dirais que ça reflète plus l'image d'un club amateur à statut professionnel, c'est vrai, mais on est très heureux d'y vivre.
Thierry Loret, entraîneur du Gazélec d'Ajaccio, est avec nous dans l'intégral tour. J'aimerais avoir votre avis sur une question qui agite le football français là ces deux derniers jours, cette fameuse scission qui est en train de s'opérer dans le foot français entre club de Ligue 1 et club de Ligue 2. Quel est votre avis là-dessus, puisque vous venez de Ligue 2, vous arrivez en Ligue 1, est-ce que vous voudriez qu'il y ait une sorte de gouvernance séparée pour la Ligue 1 et pour la Ligue 2? Est-ce que vous voudriez que ça reste comme ça?
Alors vous savez, je trouve que le football français, depuis ces dernières années, marche un peu sur la tête par moment, et il y a des décisions. Alors moi, je suis un amoureux du football, mais du football qui se passe sur un rectangle vert, vous voyez. Donc, c'est ma passion, et si je suis aujourd'hui resté dans le milieu du football, c'est parce que j'y prends un pied énorme. Mais c'est vrai qu'il y a des affaires, je dirais, de nos instances qui par moment déroutent un peu, voilà, tout simplement. Alors après, qu'il y ait 3 descentes, qu'il y en ait 2, qu'il y ait un barrage, je trouve que on fait un peu rire en ce moment. Voilà, moi je trouve qu'on fait un peu rire. Alors donc, il y a beaucoup de personnes qui retournent leur veste, il y a beaucoup de personnes qui changent d'avis, il y a beaucoup de personnes qui font des effets d'annonce, un peu de communication. Alors j'ai pas cité de nom, mais bon, on sait à peu près qui ça concerne. Voilà. Aujourd'hui, moi je m'imagine à la place d'un club de L2. Les règles changent au dernier moment, c'est assez surprenant. Voilà, on avait pris le parti de changer le règlement, enfin, la réglementation en ce qui concerne les accessions et les relégations sur l'année prochaine. Voilà, on pouvait très bien se positionner là-dessus. Je sais pas si ça concerne pas les gros clubs. Donc, je veux bien quand je dis certaines paroles, je dirais, allez, je vais les qualifier de malheureuses aujourd'hui dans la presse. Il y a certains présidents qui devraient faire attention à ce qu'ils disent, voilà, tout simplement. Quand on veut protéger les investisseurs en Ligue 1, qu'est-ce qu'on fait des investisseurs en Ligue 2? Voilà. Donc, il y a aussi des investisseurs en Ligue 2, voilà. Alors, ils sont peut-être pas aussi riches que ceux qui investissent en Ligue 1, mais ils mettent beaucoup d'argent et beaucoup de cœur aussi. Donc, il faut les respecter.
Il n'y aura pas de problème sur votre stade la saison prochaine, il sera bien homologué?
Oui, il est homologué déjà depuis l'année dernière, donc ça pose aucun problème, ça c'est pas un souci. Par contre, on espère terminer les travaux pour le premier match, ça va être short, mais normalement ça devrait pouvoir passer.
Merci beaucoup Thierry Loret d'avoir passé quelques minutes avec nous sur l'antenne d'RMC. Bonne préparation pour cette saison de Ligue 1 qui s'annonce. À très bientôt.
C'est très gentil à vous, merci beaucoup.
Et Florent Gautreau est entré en studio.
Salut,
avec
Virginie.
Un beau débat sur la AS Saint-Etienne qui nous attend.
Absolument, gros plan ce soir sur les Verts et notamment le dossier Gradel. Quelles ambitions, quels attaquants pour Saint-Etienne? Supporter Stéphanois, on vous attend au 32-16. Toutes les infos transferts du jour, bien sûr, dans le Mercato Show avec Mohamed Bouafsi. Plus notre débat ce soir sur le classement FIFA et la France qui dégringole. Le je m'en fous pas. Le quiz au programme également. L'after arrive dans quelques instants. À tout de suite.